Bien, nous pouvons reprendre avec la troisième et dernière des géographies cervantines, c'est-à-dire celle immense, magnifique, qui se trouve dans le dernier livre écrit par Cervantes, Les travaux au sens d'épreuve, Trabajo au sens d'épreuve, de Persiles et Sigismunda. C'est un livre qui est publié après sa mort en 1617. Et qui a été achevé quasi au moment de mourir, puisque dans ce livre a été annoncé, dans le prologue des nouvelles exemplaires, Cervantes écrivait « Après elle, si la vie ne me quitte, je t'offre les travaux de Persilès, livre qui sent hardi à rivaliser avec Héliodore ». C'est-à-dire ici, pour Cervantes, la compétition avec un des plus fameux romans hellénistiques, Les Éthiopiques d'Héliodore, et donc d'essayer là une comparaison par rapport à un répertoire canonique qui pouvait lui donner la dignité littéraire que ni les nouvelles, ni dans un autre sens, Don Quichotte pouvait apporter. Et le livre est quasi achevé au moment de la mort, puisque, je terminerai avec ça, mais je commence aussi avec cela, dans la dédicace qu'il écrit pour son protecteur, ou celui qu'il espère être son protecteur du temps, le Conde de Lemos, il écrit les premières lignes, ces vieux couplets, coplas, si célèbres en leur temps, qui commencent par le pied déjà à l'étrier, et c'était un poème pour la Vierge. J'aurais aimé ne pas les voir si bienvenus dans cette mienne épître que je peux presque commencer dans les mêmes termes en disant « Le pied est déjà à l'étrier, de mortelle angoisse saisie, grand seigneur, ces lignes j'écris » et il a substitué à « Señora », la Vierge, le grand seigneur qui est le comte de Lemos. « Hier, j'ai reçu l'extrême onction. Aujourd'hui, j'écris ceci. Le temps est court, l'angoisse grandit, l'espoir s'amenuise, et en dépit de tout, je soutiens ma vie du désir que j'ai de vivre, et je voudrais bien en reporter les bornes jusqu'au bonheur de baiser les pieds de votre Excellence, car il se pourrait que la joie de vous revoir bien portant en Espagne me rende la vie. » C'est-à-dire ici une formule tout à fait conventionnelle et usée de la dédicace qui prend une dimension particulièrement puissante puisqu'elle est écrite quasi au moment de la mort après l'extrême onction. Alors revenons à ce que l'on peut dire en une heure du Persilès et Sigismunda en rapport avec le thème évidemment qui est celui de ce cours. Les géographies du Persilès et Sigismunda sont de trois ordres. La première, c'est la construction même de cet immense roman. Et là, le mot n'est pas inadéquat par rapport au genre tel qu'il était pratiqué dans le monde hellénistique, et qui est une construction qui est un diptyque géographique. Puis, j'essaierai de montrer qu'on y retrouve aussi ce thème de la mobilité de l'écrit pour terminer avec mon commencement, c'est-à-dire la mobilité même de l'auteur. Alors le premier thème, le plus important, c'est cette construction comme un diptyque géographique. Je ne sais pas si beaucoup d'entre vous ont lu les travaux de Persilès et Sigismunda, mais je le recommande, c'est une lecture magnifique. Le diptyque est le suivant. Les deux premiers livres sont ce qui correspond au sous-titre du livre, Histoire septentrionale. Et là, on a une figure qui fait qu'on prend la partie des deux premiers livres pour le tout, puisque le roman tout entier s'appelle Historia septentrionale. À quoi renvoie ce septentrional ? À une forme d'exotisme du Nord, c'est-à-dire que les deux premiers livres se développent dans un univers qui est celui des océans ou des mers du Nord, des tempêtes, des neiges, des glaces, du gel nocturne, des monstres, dans lequel se rencontrent des îles, mais toujours désignées comme des îles barbares, ou des comportements comme les sacrifices humains, ou bien la lycanthropie, les hommes et les femmes qui se changent au moins temporairement en loups, existent. Et le terme de la barbarie est constamment mis en avant, opposé avec évidemment celui de la chrétienté. Et c'est un univers où les aventures multiples, infinies, il serait impossible de résumer les deux premiers livres du Persiles et Sigismunda, sont des aventures de naufrage, de capture, de mise en esclavage. Et avec ce qui donne scande le récit, puisqu'il commence avec l'histoire de deux, un jeune homme et une jeune fille, Periandro et Auristella, de multiples rencontres, de naufragés ou d'exilés, ou de captifs qui se trouvent là, au nord, et qui viennent d'Espagne, d'Italie ou du Portugal. Ce qui fait qu'il y a une insistance méticuleuse de Cervantes sur les langues dans ce texte. Il est évidemment écrit entièrement en castillan, mais en castillan qui renvoie au fait que certains parlent en portugais, d'autres parlent en italien, d'autres parlent en castillan, une femme parle en polonais. Donc il y a là un monde aussi mélangé, bigarré, de multiples langues. La localisation, sinon précise, mais géographiquement plus définie, de cet univers, de ce monde, des deux premiers livres, n'apparaît que très tardivement. Elle apparaît dans les derniers chapitres, chapitre 12 et chapitre 13, du quatrième livre, où tous les protagonistes, au moins une partie de ceux qui ont traversé tout le roman, se retrouvent à Rome, et où le chapitre 12 s'appelle « Où l'on dit qui étaient Periandro et Auristella ». Et c'est comme, à la fin du livre, le dévoilement d'une histoire qui, pour partie, restait obscure, mystérieuse au lecteur. Et on découvre que Periandro, qui est en fait Persiles, est un des deux fils du roi de Thulé, et que Auristella, qui est en fait Sigismunda, est l'une des deux filles de la reine de Frislandia. Et s'ébauche une géographie de ces lieux du Nord, en deux moments. D'abord, par celui qui était le gouverneur de Persiles, et qui, à la suite d'aventures multiples, se retrouve aussi à Rome, où il explique qu'à l'extrémité de la Norvège, presque sous le pôle arctique, se trouve l'île où l'on tient que l'on tient pour le bout du monde, du moins dans cette région-là, et qui s'appelle Thulé. C'est elle que Virgile, enfin, elle s'appelle Thulé, c'est elle que Virgile appela Thulé dans ces fameux vers du livre 1 des Géorgiques. Car Thulé en grec est la même chose que Thulé en latin. Cette île est aussi grande, ou peu s'en faut, que l'Angleterre, riche et abondante en toutes les choses qui sont nécessaires à l'humaine existence. Un peu plus loin, Adelante, sous le même nord, à quelque 300 lieues de Thulé, se trouve l'île qu'on nomme Frislanda. Cela doit faire 400 ans qu'on l'a découverte. Elle est si grande qu'on la compte comme royaume et d'importance. Donc, les deux lieux de naissance, soit de Persiles, soit de Sigismunda, l'île de Thulé, et plus en avant, plus loin, l'île de Frislanda. Et un peu plus loin, le même personnage éclaire un peu plus cette géographie, qui, comme vous comprenez d'emblée, est à la fois une géographie bien réelle, mais en même temps une géographie pour grande partie mythique ou imaginaire dans ce nord de l'Europe, ces confins nordiques de l'Europe. Serafido, qui est le nom donc de ce gouverneur, de Persiles, avait répété que l'île de Thulé ou de Thulé, à présent nommée vulgairement Islande, était la dernière de ces mers septentrionales. Encore qu'il y ait un peu plus loin, Adelante, comme je t'ai dit, une autre île nommée Frislanda, qui fut découverte par Nicolas Zeno, vénitien, en l'an 1380, aussi grande que la Sicile, ignorée jusqu'alors des anciens, C'est sur elle que régnait Eusebia, mère de cette Sigismunda que je cherche. Il y a une autre île, non moins imposante et presque toujours couverte de neige, qui s'appelle Groenland, Groenlandia, où on voit à l'une de ses extrémités un monastère fondé sous l'égide de saint Thomas, où se trouvent des religieux des quatre nations, des Espagnols, des Français, des Toscans et des Latins. Ils enseignent leur langue aux personnes de qualité de cette île pour qu'elles se fassent comprendre partout où elles vont une fois qu'elles en sortent. J'ai déjà dit que cette île est enfouie dans la neige et à la cime d'une petite montagne se trouve une source qui, chose merveilleuse et digne d'être sue, débite et déverse telle abondance d'eau et si chaude que parvenue à la mer jusqu'à bonne distance de la côte, non seulement elle fait fondre sa glace, mais la réchauffe en sorte qu'elle se rassemble en cet endroit, une incroyable infinité de poissons. Donc vous voyez une géographie qui a ces trois îles, Thule, l'île de Frislanda, et on ne sait pas bien si elle est plus au nord ou moins au nord, celle de Groenlanda. Ça renvoie à la fois aux lectures de Cervantes, qui a construit cette géographie à partir de récits de voyage, par exemple celui de ce Vénitien, Nicolas Zeno, qui, en fin du XIVe siècle, a supposé avoir découvert cette île de Frislanda, et le récit a été publié dans une édition en 1558 que Cervantes a pu lire. Il a utilisé aussi des histoires ou des chroniques du Nord et les recueils de compilations d'anthologies où l'on trouve des morceaux de savoir assemblés. Il y en a deux fameuses, l'une qui est celle de Pedro Mejía, qui s'appelle Silva de Varia Lección, et qui date de 1555, et on peut trouver tout sur tout, en quelque sorte. C'est en quatre tomes, cette Silva de Varia Lección, la forêt de diverses leçons, traduite en français, un des livres les plus qui a circulé à la plus grande échelle européenne, parce que c'était un répertoire, non pas simplement de lieux communs, c'est-à-dire de citations, mais un répertoire de données sur les hommes qui ont eu une très grande mémoire, par exemple, ou bien des savoirs encyclopédiques. Et l'autre, c'est le Jardín de Flores Curiosas de Torquemada, non pas l'inquisiteur, mais un autre Torquemada, qui a été publié en 1570. Et Cervantes puise dans ces anthologies, dans les chroniques et dans les récits de voyage pour construire un nord qui est à la fois identifiable pour ses contemporains, mais en même temps très largement mythique ou imaginaire. Et c'est sur ce terrain, qui dans les deux premiers, sur ce territoire ou ces mers plus encore, que dans les deux premiers livres des travaux de Persiles et Sigismunda, on a de multiples rencontres avec une structure de récit qu'il va réemployer dans Le Quichotte, c'est-à-dire que chaque rencontre entraîne un récit rétrospectif de ce qui est advenu à celui qui entre en contact avec les personnages et qui développe rétrospectivement l'histoire qui a été la sienne. Mais pour donner une idée de cet horizon géographique, de cette histoire septentrionale, on a ce passage qui donne d'une manière un peu générale le cadre. Toutes ces mers-là sont presque entièrement couvertes d'îles qui sont toujours ou le plus souvent inhabitées. Et quand des gens y vivent, ce sont des rustres, à moitié barbares, fort peu civils, et qui ont le cœur dur et insolent. En dépit de tout cela, ils souhaitent trouver accueil, donc les personnages qui sont à la dérive, sur l'une d'elles, car ils se disaient que ses habitants ne pourraient être si cruels que ne le fussent davantage les montagnes de neige et les durs et âpres écueils de celles qu'ils laissaient derrière eux. Donc on a cet exotisme du Nord qui peut avoir une grande puissance, un attrait d'originalité dans le monde espagnol du début du XVIIe siècle. Et cette tension barbarie-civilisation, elle est aussi mise en évidence par le fait que Sigismunda Auristella est déjà chrétienne. Elle est comme dans ces monastères du Groenland, il y a une présence du christianisme et l'histoire va être l'histoire d'un vœu fait par Auristella, c'est-à-dire, quand elle s'appelle, Balcerus Monda, ils ont dû changer de nom pour échapper à un destin malheureux, et d'aller à Rome en pèlerinage au lieu le plus sacré de du catholicisme. Et pour Persilès, Periandro, c'est moins net, mais il l'accompagne dans cette aventure, et peut-être d'ailleurs le voyage vers Rome devient comme un voyage de conversion. Donc voilà les deux premiers volumes, les deux premiers livres, pardon, qui sont situés dans ce nord de l'histoire septentrionale. À partir du début du livre 3, et à partir du moment où les pèlerins, ou du moins Sigismonda, a commencé ce voyage vers Rome, et donc ils s'embarquent et ils arrivent à Lisbonne, le basculement se fait sur une autre géographie et il y a un autre genre. L'autre géographie, c'est évidemment la géographie méridionale. Portugal, Castille, Catalogne, Roussillon, Languedoc, Provence, Italie jusqu'à Rome. Donc il y a un contraste entre le monde glacé, neigeux, de tempête des deux premiers livres et ce monde lumineux, méditerranéen, ensoleillé des livres 3 et 4. Mais le genre est aussi différent puisqu'on peut comprendre que la matrice, c'est une sorte de récit de pèlerinage, un immense récit de pèlerinage puisque c'est sur des centaines de pages que se développe le voyage. Mais c'est un récit qui est l'accomplissement du vœu fait par Sigismunda et Auristella, catholiques nés en terre barbare, accompagnés de Persilès, de se rendre à Rome. Et le genre qui est en arrière-fond, c'est évidemment le genre classique des récits de pèlerinage en Terre Sainte ou vers des grands sanctuaires de la chrétienté comme Rome ou Saint-Jacques-de-Compostelle. Mais c'est aussi pour Cervantes, il y a une manière, dans un certain sens, de rentrer en compétition non seulement avec Héliodore et le roman hellénistique, mais aussi d'entrer en compétition avec un de ses ennemis les plus acharnés, qui était Lope de Vega, depuis la publication du Quichotte, qui avait publié en 1604 un roman chrétien de ce type, El Peregrino en su Patria, et qui se termine aussi à Rome. Et donc, du coup, il y avait là une manière d'écrire contre Lope de Vega une histoire qui avait des traits parallèles. Alors, ce pèlerinage, il commence, ce récit de pèlerinage, il commence dès l'arrivée à Lisbonne, présenté comme une terre de chrétienté, et il reprend les traits à la fois des récits de pèlerinage et des pèlerinages de la première modernité. C'est-à-dire qu'une des ruptures entre les deux premiers livres et les livres 3 et 4 est le moment où les personnages changent de vêtements et d'habits. Ils s'habillent en pèlerins, alors qu'auparavant, ils étaient habillés, ce qui faisait, à l'arrivée à Lisbonne, l'étonnement des Lisboètes, avec des habits qui appartenaient à ce monde nordique et barbare, richement orné, mais avec cette dimension. D'autre part, l'histoire est l'histoire d'un immense voyage à pied. Et il y a presque une ironie, parfois, sur cette question, puisque c'est un texte aussi où il y a une sorte de surplomb ironique de Cervantes par rapport à lui-même. C'est-à-dire que là, les deux premiers livres sont si abondamment marqués par des naufrages et des voyages en mer qu'il y a comme un soulagement des personnages à partir à pied. Auristella était bien aise de voir se prêcher le moment de mettre pied en terre ferme au lieu d'aller de port en port et d'île en île à la merci de l'inconstance de la mer et de la volonté capricieuse des vents. Et sa joie grandit d'apprendre qu'elle pourrait aller depuis là jusqu'à Rome à pied sec sans plus avoir à s'embarquer sauf à le vouloir. Presque un trait légèrement ironique de cet abus de mère des deux premiers livres et maintenant transformé par cet immense voyage à pied. Alors se développe cette géographie marquée par des haltes et dans chaque halte des rencontres ou des aventures. Si on en suit le déroulement, on voit qu'il y a une première temps qui est une sorte de traversée en droiture directement du Portugal et de l'Espagne, qui va conduire de Lisbonne jusqu'au pays de Valence. L'ouverture se fait évidemment avec Lisbonne, et où un de ces Espagnols naufragés qui se trouvait dans les pays du Nord, qui s'appelle Antonio, qui s'est marié avec une barbare, mais qui s'est déjà plus ou moins converti au catholicisme, lui décrit Lisbonne de la manière suivante. « C'est maintenant, barbare chérie, que tu vas apprendre sur la façon de servir Dieu d'autre chose, non point différente, mais bien plus abondante que celle que je t'avais relatée. C'est maintenant que tu vas voir les riches temples où il est adoré. Tu verras en même temps les cérémonies catholiques par lesquelles on le sert, et tu remarqueras quel point de perfection atteint ainsi la charité chrétienne. Dans cette ville-ci, tu verras comment la maladie a pour bourreau de nombreux hôpitaux qui en viennent à bout, et comment celui qui y perd la vie et gagne celle du ciel par la grâce efficace des infinies indulgences qui l'environnent. Ici, l'amour et la vertu se donnent la main et se promènent ensemble. La courtoisie ne laisse pas d'accès à l'arrogance et la valeur ne souffre pas que s'approche d'elle la lâcheté. » C'est toujours ce diptyque qui n'est plus un diptyque géographique, mais qui est le diptyque entre la barbarie et la civilisation, mais ici identifiée au christianisme, avec la vertu, la courtoisie, la bienveillance. Ce diptyque organise aussi le récit, et évidemment nous renvoie, j'en dirais un mot, à la dévotion de Cervantes dans cette fin de sa vie. Pour renouer des fils de ce propre cours, c'est à Lisbonne que les personnages rencontrent ce peintre qui va peindre leurs aventures jusque-là advenu, et qui leur permet parfois d'abréger les récits quand on leur demande de qui ils sont et d'où ils viennent. Et tout ce thème très important dans le siècle d'or, comme je l'avais dit, entre l'équivalence qui est pensée, entre les images qui racontent et les mots qui peignent. Ensuite, ils traversent donc la Castille directement, Badajoz, la Castille, Cáceres, et ils arrivent, point fondamental, que nous avons déjà rencontré avec la illustre Fregona, au monastère de Guadalupe. Et ce monastère est le culte le plus important de la Vierge dans l'Espagne de la première modernité, et ils décrivent ainsi le monastère. À peine les dévots pèlerins eurent-ils mis le pied dans l'une de deux entrées qui mènent à la vallée formée et enserrée par les hautes sierras de Guadalupe, que de nouveaux sujets d'admiration vinrent à chaque pas qu'ils faisaient saisir leurs âmes. Mais là où elle atteignit son comble, c'est quand ils virent le grandiose et somptueux monastère dont les murailles enserrent l'image sacrée de l'impératrice des cieux. L'image sacrée, dis-je, qui est liberté des captifs, l'hymne de leur fer, soulagement de leurs souffrances. L'image sacrée qui est guérison des maladies, consolation des affligés, mère des orphelins et réparation des infortunes. Ils entrèrent dans son temple et au lieu de trouver ses murailles parées de riches tentures, pourpres de Tyr, damas de Syrie, brocarts de Milan, ils trouvèrent des béquilles qui avaient laissé les boiteux, des yeux de cire qui avaient laissé les aveugles, des bras qui avaient suspendu les manchots, des suaires dont s'étaient dépouillés les morts, tous étant après avoir chu au plus bas de la misère, bien vivant, bien portant, bien libre et bien content, grâce à la généreuse miséricorde de la Mère des Miséricordes, qui, en cet humble lieu, fait resplendir l'éclat de son Fils glorieux et de l'immense cortège de ses miséricordes. C'est-à-dire qu'on retrouve ici la totalité, finalement, de ce qui constitue la dévotion ou la piété de la réforme catholique dans sa formulation hispanique, c'est-à-dire que l'image très sainte image, l'image sacrée, la Santissima Imagen, dit le texte de Cervantes, de la Vierge, et l'efficace de sa protection qui produit des miracles dont la trace et la reconnaissance est laissée par cette abondance des ex-votos, qui, comme on le voit, ne sont pas ici même cités comme des tableaux avec une légende, mais comme les objets qui correspondaient à ce qui a été le mal guéri miraculeusement par la Vierge de Miséricorde. On trouve aussi ici, un peu plus loin, l'autre dimension de cette piété qui est le culte des reliques, puisque les pèlerins visitèrent les reliques. C'est un récit inséré dans le récit, mais c'est la même idée du sanctuaire. Les pèlerins visitèrent les reliques, qui sont nombreuses, fort saintes et riches. Ils confessèrent leurs fautes sur les sacrements et sur ces entrefaites, etc. Donc, ajouter à la vénération des images, aux ex-voto qui sont la trace des miracles, aussi le culte des reliques. Et là, je l'avais évoqué en séminaire, c'est vrai qu'on est là devant une réalité peut-être les plus profondes de la réforme catholique, c'est-à-dire d'un côté contre les affirmations des protestantismes, la légitimité ou même l'obligation de la vénération des images sacrées du culte des saints, donc des reliques, et de l'existence du miracle, et en même temps, pour l'Église, depuis particulièrement bien illustré par le décret de la 25e session du Concile de Trente, un risque, qui est le risque de l'idolâtrie, c'est-à-dire de transférer sur ces images sacrées de la divinité le culte à la divinité. Et cette tension est toujours forte, elle n'est pas nécessairement perçue dans le texte de Cervantes, mais elle est une trame de fond de ces cultes des saints, donc des reliques et des miracles. Dans le cas de Cervantes, il est évident que, alors que parfois, certains commentateurs, par exemple Américo Castro, avaient décelé des traces d'ironie dans ces descriptions, avec des critiques différentes et plus contemporaines. Je crois que ce n'est pas le cas. La fin de la vie de Cervantes est marquée par une adhésion très forte à la réforme catholique. En 1609, il entre dans la confrérie des esclaves du Très-Saint-Sacrement, et en 1613, il entre dans le tiers-ordre de Saint-François, donc non pas un statut clérical, mais une condition séculière à l'intérieur d'un ordre religieux, certes tertiaire, mais pas... Donc il y a une piété, une dévotion très forte de Cervantes qui est liée à cette conjonction que représente la description du sanctuaire de Guadalupe avec cette trilogie, la Très Sainte Vierge, l'image sacrée, le culte des reliques et le miracle. Les pèlerins continuent, partent Trujillo, Talavera, franchissent le Tage, qui est et la vue de Tolède, mais n'entrent pas dans Tolède. Et un autre trait intéressant est lorsqu'ils sont au bord du Tage, Periandro, qui a des lectures, décrire ce paysage par une paraphrase, en quelque sorte, de poème de Garcilaso de la Vega. Et la réflexion qu'introduit Cervantes est la suivante. Les leçons des livres donnent souvent une plus sûre expérience des choses que ne fait leur vue même, pour la raison que le lecteur s'arrête à de nombreuses reprises à ce qu'il lit avec une permanente attention, alors que sans elle, celui qui regarde ne s'arrête à rien. Et voilà pourquoi la lecture surpasse la vue. Et l'on retrouve cette même équivalence que l'on avait entre le tableau et l'écrit, mais ici déplacée sur le livre lu et la réalité vue. Et il y a une équivalence et même une supériorité du lire sur le voir pour les raisons qui sont celles de la méticulosité ou de l'attention de la lecture, alors que le voir peut être beaucoup plus négligent ou beaucoup plus partiel. Mais on peut dire aussi qu'une des des trames de toute l'écriture de Cervantes, c'est ce rapport entre l'écrit et la représentation picturale ou iconographique, et dans ce au-delà, le rapport entre le lire et le voir. Ensuite, le voyage continue par la montée vers le nord, c'est-à-dire, pas tout à fait encore, parce qu'il traverse Aranjuez, Ocaña, cette localité sans nom dont j'avais parlé parce que c'est là où il rencontre les deux supposés évadés des bagnes d'Alger qui, pour accréditer leur récit, montrent sinon une carte, mais au moins une vue cavalière du port et de la ville d'Alger. Et c'est là où ils entrent dans le pays de Valence, qui va être le point tournant pour la remontée vers le nord. Ils ne s'arrêtent donc, on l'a vu, ni à Tolède, ni à Madrid, et pas même non plus dans Valence. C'est un itinéraire qui passe par des bourgs, des petites villes, et qui évite les grandes villes de l'Espagne. Il y aurait beaucoup à réfléchir ou à commenter sur ce pourquoi. On a souvent commenté par le fait que Cervantes avait, peut-être après des déboires multiples, à la fois littéraires ou comme on l'a vu l'autre jour avec le rejet du mémorial de 1590 où il espérait un poste, un office aux Indes, une sorte de distance par rapport à la ville qui est devenue la cour. Et lorsque le récit est au port de Valence, c'est un récit intéressant qui se lie aussi à ce que je viens de dire sur la dévotion de Cervantes, particulièrement dans la fin de sa vie, puisque ce qui est décrit là, dans un village qui est au port de Valence, c'est un village qui est dit comme un lieu de morisques, un lugar de moriscos, c'est-à-dire de ces musulmans convertis de gré, mais plutôt de force, au christianisme, après la fin de la Reconquista, et qui sont toujours suspectés, non seulement d'être restés musulmans, mais d'entretenir des relations avec la Berbérie, c'est-à-dire avec les États du Maghreb, et donc, du coup, avec les Ottomans. Et le texte est intéressant puisque un sacristain qui est d'origine morisque mais qui est totalement converti au catholicisme, non seulement décrit et met en garde les pèlerins qui arrivent contre ce qui va se passer, c'est-à-dire des navires arrivant de Berbérie, donc d'Algérie ou du Maghreb, pour répatrier vers la terre musulmane les morisques qui sont maintenant... Enfin, qui veulent abandonner l'Espagne. Et aussi, il énonce comme une forme de prophétie ce qui serait la réunion, l'unité chrétienne de l'Espagne par l'expulsion des morisques. Ce qui fait un décalage curieux, puisque cette partie-là, on suppose que le roman peut, par des indications chronologiques, se situe dans la partie du pèlerinage au milieu du XVIe siècle, donc il annonce ce qui est déjà en train d'advenir, ou est advenu, c'est-à-dire la décision en 1609 par Philippe III d'expulser les morisques. Et on a donc du coup comme une sorte de prophétie rétrospective. On en avait vu des exemples dans des pièces historiques de Shakespeare où quelqu'un annonce au futur ce qui pour les spectateurs ou les lecteurs est déjà un fait historique advenu. Mais l'intéressant ici est évidemment qu'il y a comme une sorte de louange dans cette prophétie du roi qui sera capable de redonner unité de foi à l'Espagne en expulsant ceux qui ne sont que de mauvais chrétiens et en fait de véritables musulmans alliés des ennemis du roi d'Espagne. Ce qui pourrait, d'une part, amener à cette idée, là encore, parce que de Cervantes adhérant derrière ce discours du sacristain à l'expulsion des morisques, réclamé par les milieux les plus engagés de la réforme catholique. Et de l'autre côté, qui peut laisser aussi des doutes sur la chronologie, on l'avait vu avec le Don Quichotte, mais la chronologie interne du Persil Assis Irismona, puisqu'il y a il est censé se passer au milieu du XVIe siècle, mais on y trouvera aussi des mentions beaucoup plus postérieures, par exemple, à l'arrivée à Lisbonne, il rencontre les pèlerins, le vice-roi, et il n'y a de vice-roi à Lisbonne qu'à partir de 1580, quand la Portugal est annexée ou ajoutée aux couronnes d'Aragon et de Castille. Ou bien il a évoqué le transfert de la cour à Madrid, et il n'apparaît qu'en 1606. Donc la même indécision de Cervantes, mais avec quand même toujours quelque chose qui est très présent, c'est-à-dire ce sont des livres au présent dans un certain sens, même si c'est le milieu du XVIe siècle. Et donc il y a une dimension de contemporanéité, y compris dans ce roman de découpage hellénistique. Donc pour terminer le parcours, ils entrent à Barcelone, où ils voient les galères, et puis ensuite c'est ce parcours qui les mène en Languedoc, en Provence, c'est là où dans une auberge ils rencontrent trois dames nobles françaises qui parlent sans difficulté en castillan avec eux, ce qui est la réflexion de Cervantes, en France il n'y a personne qui néglige d'apprendre le castillan, et puis ensuite c'est la redescente sur l'Italie, Milan, Luc, et l'arrivée à Rome. Le but du pèlerinage, une année de jubilé romain, des indulgences qu'on obtient, par exemple en visitant les quatre basiliques romaines dans une même journée, et la fin hors les murs, auprès du sanctuaire de Saint-Paul hors les murs, et non pas de Saint-Pierre, la basilique, sans doute avec cet aspect de l'idée d'un récit de pèlerinage qui est aussi un récit ou une réaffirmation de conversion, puisqu'il y a là l'aspect de Paul comme évangélisateur. Donc voilà la géographie de ce grand livre avec cette articulation entre le septentrional et le méridional, le barbare et le chrétien, et à chaque halte, à la fois des épisodes romanesques, parfois extravagants, invraisemblables, et aussi, par moment, des descriptions ou des réflexions qui ont à voir avec des enjeux les plus fondamentaux du temps, l'expulsion des Morisques, les cultes de la réforme catholique. Donc, mobilité des pèlerins, mobilité des textes pour un écho dans le Persiles Isiris Munda, de ce que j'ai essayé de montrer avec les textes fragiles et vulnérables des nouvelles exemplaires. C'est une histoire, un récit assez curieux. C'est lorsque les pèlerins se trouvent à une journée de Rome, ils arrivent dans une auberge, et voilà ce qui advient. Ils étaient tous assis à une table que la sollicitude de l'hôte et la diligence de ses serviteurs avaient abondamment garnie, lorsque d'une chambre sortit un pèlerin, fort bel homme, qui portait sur le bras gauche un écritoire et tenait à la main un cahier. Escrivanias. Là, il a un écritoire, c'est-à-dire de l'encre, une plume ou des plumes, et de quoi sécher le papier ou tailler les plumes. Et il tient à la main un cartapacio, un cahier. Après les avoir tous salués comme il faut, il leur dit, en langue castillane, cet habit de pèlerin que je porte et qui, pour son porteur, entraîne l'obligation de demander l'aumône, m'oblige à vous la demander, est si avantageuse et nouvelle en son genre que, sans me donner aucun joyau ni autre bien de semblable valeur, vous m'allez faire riche. Je suis, messieurs, un homme plein de curiosité. Ça veut plutôt dire qu'il est un homme plutôt très, qui est curieux pour les autres. Sur la moitié de mon âme prédomine Mars, et sur l'autre, Mercure et Apollon. J'ai consacré quelques années à l'exercice de la guerre et quelques autres, étant plus âgé, à celui des lettres. En celui de la guerre, j'ai acquis quelques renoms, et par celui des lettres, j'ai gagné quelques estimes. Des livres, j'en ai imprimé plusieurs, que les ignorants n'ont pas condamnés comme mauvais et que les connaisseurs, discretos, ont trouvé assez bons. Et comme la nécessité est, ainsi que l'on dit, maîtresse de subtilité pour les esprits, le mien, qui a un je ne sais quoi de fantaisiste et d'inventif, s'est pris à imaginer quelque chose d'un peu neuf et extraordinaire. Et c'est ce que je voudrais publier un livre aux dépens d'autrui, c'est-à-dire que d'autres en auraient la peine et moi le profit. Il s'intitulera, ce livre, « Florilège d'aphorismes rares ». Il s'agit de sentences, sentencias, prises sur le vif, que j'obtiens comme suit. Quand sur ma route, ou n'importe où ailleurs, je tombe sur quelqu'un qui se révèle à l'expérience, doté d'esprit et de talent, je le prie de m'écrire sur ce cahier quelques formules spirituelles, dicho agudo, et s'il en sait, ou quelques sentences qui fassent même effet. Et c'est de la sorte que je tiens là rassemblés plus de 300 aphorismes, tous dignes d'être connus et imprimés, non sous ma paternité, mais sous celle de leurs auteurs respectifs, dont chacun a signé de son nom ce qu'il a pu dire. Telle est l'aumône que je demande, plus prisée par moi que tout l'or du monde. Montrez-nous, monsieur l'Espagnol, répliqua Periandro, quelque échantillon de ce que vous demandez, afin que cela guide nos esprits, qui essaieront ensuite de vous satisfaire du mieux qu'ils pourront. Et alors, il cite deux des aphorismes, j'y reviendrai, qui ont été écrits sur son cahier. Alors, c'est un livre, c'est un texte assez curieux. D'abord, il est fondé sur l'appropriation, comme très souvent chez Cervantes, de genres textuels et éditoriaux tout à fait importants dans la première modernité, et tout à fait fondamentaux pour ce qu'on appelle « letras humanas », pour les lettres humaines. D'une part, des anthologies de sentencias ou d'aphorismes. Les sentences sont à prendre au sens latin de sententiae, c'est-à-dire finalement les lieux communs, ce que sont les vérités universelles énoncées par des sentences, au sens propre. Et comme l'avait écrit un collègue français, Francis Goyer, on a là des lieux communs qui sont sublimes parce que ce sont des vérités générales, universelles, qui ne sont liées ni au temps, ni à la circonstance, ni au lieu, mais qui ont cette portée de morale ou de vérité universelle. Et les aphorismes, d'une certaine manière, appartiennent à la même famille, c'est-à-dire des recueils d'énoncés, brefs, et qui ont cette forme de l'universel. L'autre genre qui est évoqué, c'est pour ça que j'ai lu les textes, les noms en espagnol, là, il évoque cela, notre ami le pèlerin, comme aphorismos ou sentencias. Mais il a dit aussi, si vous avez quelques dicho agudo. Alors là, c'est autre chose. Ce sont des dits subtils, traduits par formule spirituelle. Je pense que formule n'est pas nécessairement le mieux, parce qu'il s'agit là de petite vignette. Il ne s'agit pas simplement d'une formule, la valeur n'attend pas le nombre des années. Il s'agit d'un dit, c'est-à-dire quelque chose qui commence par être attribué à quelqu'un, en général une autorité ancienne ou un personnage célèbre ou un personnage imaginaire de paysan. Donc c'est un dit et un énoncé qui prend la forme d'une petite histoire, et qui peut se terminer sur une morale, mais qui a la forme d'une petite histoire. Et on a cette double référence dans Sententia d'un côté, la maxime, l'aphorisme, la formule, et dicho, qui est ce dit, qui est un énoncé plus long et attribué à un personnage, alors que par définition, la maxime ou l'aphorisme est sans attribution. Elle est une vérité qui s'impose dans sa force et son universel. Donc Cervantes joue avec ces deux éléments, il joue aussi avec le titre, puisque beaucoup de ces recueils, depuis le XVIe jusqu'au moment de Cervantes, début XVIIe, ont pour titre Floresta. L'un des plus célèbres, que Cervantes d'ailleurs utilise, est en 1574, là, le livre publié à Tolède par Melchor de Santa Cruz et qui s'appelle Floresta Española. Floresta, c'est le bosquet. Et on voit que c'est une image végétale pour un rassemblement de textes. Floresta Española de apophthegmas, qui sont aussi cette forme utilisée par Erasme, d'énoncé, bref, ou sententias. Sabia y graciosamente dichos, savamment et élégamment énoncé, de algunos españoles, par quelques Espagnols. Et la Floresta joue sur la même ambiguïté, puisque d'un côté, l'apophthegme est équivalent de la sentence, c'est-à-dire de ce qui serait le sublime lieu commun, mais en même temps, ce sont des lieux communs qui sont dits gracieusement, élégamment et savamment, et attribués à qui les dit, et qui, en fait, dans le texte de Melchior Santa Cruz, sont des petites histoires de quelques lignes, mais une petite mise en scène dans le texte. Et on voit que c'est une tension présente, ça, à la Renaissance, entre la formule brève, concise et universelle de l'aphorisme ou de la sentence et l'attribution à un personnage d'un petit récit qui peut être une facétie, s'il s'agit d'un effet comique, d'un bon mot ou d'un bref dialogue. Quelqu'un a dit et l'autre lui a répondu. Donc, Cervantes utilise ça, mais pourquoi ? Quand on entre plus loin dans le texte, avec les exemples qui sont donnés, on voit qu'il s'agit surtout de sentences, puisque les 12 exemples qu'a recueilli ou est en train de recueillir l'auteur de ce livre dont il n'est pas l'auteur sont sous cette forme-là. Les deux premiers sont donc de la pèlerine qui signe la pèlerine de Talavera. Il le montre comme un exemple au personnage qu'il a rencontré, au Persilès et à Sigismunda. « J'aime mieux être mauvaise avec l'espoir d'être bonne que bonne avec la résolution d'être mauvaise. » Et celui qui l'accompagnait, qui a signé le Bartolomé le Manchego de la Manche, « Il n'est plus lourd fardeau que la femme légère. » Et alors après, imitant cela, tous vont écrire sur le cartapacio, sur le cahier de l'auteur, cette forme-là. Par exemple, Persilès écrit la chose suivante. Voilà, où est-ce qu'on en est, c'est ici. Periandro Persilès a pris la plume pour écrire « Heureux le soldat qui, pendant qu'il lutte, sait que son prince le regarde. » Et Auristella écrit, elle, « La meilleure dot que puisse apporter une femme de qualité, c'est l'honnêteté, car beauté et richesse sont usées par le temps ou ruinées par le sort. » C'est-à-dire des formules qui sont des formules de valeur générale. Et les deux premières sont dictées, puisque le Manchego et la pèlerine de Talavera ne savent pas lire et écrire, et les autres sont écrits directement. L'une, à la fin, une fois qu'ils ont tous écrit, les 9 pèlerins qui donnent leur sentence, Periandro lui demanda s'il savait par cœur certains des aphorismes portés sur son cahier et les voulait dire, à quoi il répondit qu'il n'en dirait qu'un, qui lui avait beaucoup plu, à cause de la signature de celui qui l'avait écrit et qui disait « N'aie point de désir et tu seras l'homme le plus riche du monde ». Et la signature disait « Diego de Ratos le bossu, savetier ressemeleur à Tordesillas, bourg de la vieille Castille près de Valladolid ». Et ici, évidemment, le comique vient du contraste entre la brièveté de la formule et puis cette longue signature. Et c'est pour ça que l'auteur anonyme de ce recueil qui une compilation de ce que lui écrivent ou disent les autres, la retenue. On peut aussi voir, toujours dans ce jeu de biographisme très différé et très médiatisé de Cervantes dans toutes ses œuvres, le choix de Tordesillas était le lieu duquel se réclamait l'auteur de la continuation apocryphe du Quichotte en 1614, Avellaneda. Donc peut-être une ironie aussi déplacée sur ce bossu qui est de Tordesillas, comme l'est Avellaneda, ou du moins dit qu'il l'est, sur la page de titre de la continuation apocryphe du Quichotte, publiée l'année précédente de la continuation de Cervantes. Il n'est pas absolument clair quelle est la raison, finalement, de cette inscription. Une première raison, c'est peut-être la critique contre des auteurs qui font des livres dont ils ne sont pas l'auteur. Alors ici, ce recueil des dits et sentences de tous les pèlerins qui est vendu comme sien, livre, par l'auteur, et c'est pour ça qu'il pense que le travail et pour les autres, el trabajo, mais que la, el provecho, le profit sera pour lui. Alors on peut aussi voir un écho là à ceux qui écrivent des livres dont ils ne sont pas les auteurs, à Avellaneda, qui écrit vraiment son livre, mais en même temps qui réemploie abondamment, largement, tout ce qui a été l'invention de Cervantes dans le Quichotte. Il y a aussi peut-être une critique, une ironie contre ces auteurs qui ne sont pas vraiment auteurs, mais qui ont une très grande arrogance et une très grande certitude dans le succès de leurs œuvres. Parce qu'on lui demande à cet Espagnol ce qu'il va faire de son livre, et il dit « Je ne donnerai le privilège de ce livre, de ce mien livre, à aucun libraire de Madrid s'il ne m'en offre pas 2000 ducats. Il n'y a là-bas personne qui ne veut y avoir les privilèges pour rien, ou du moins pour si peu d'argent que l'auteur du livre n'en voit pas la couleur. » Donc là aussi un écho, peut-être vous vous souvenez, dans le Quichotte, au chapitre 62, il rencontre un traducteur, Don Quichotte, dans l'atelier typographique de Barcelone, et ce traducteur dit la même chose. Il veut faire du profit avec son livre, qui est une traduction d'un livre supposément écrit, et qui est un livre en italien, Les Bagatelles. Donc ces auteurs qui ne sont pas vraiment auteurs sont ceux qui ont le plus de désir d'argent, de faire profit, de commerce de l'écriture. Et pour Cervantes, dans ses dédicaces à Lemos, ou par exemple, il y a cette idée qu'il y a une disjonction entre la protection des grands qui vous permettent de vivre et puis une écriture qui peut rapporter, puisque Cervantes lui-même négocie ou transmet aux libraires, éditeurs qu'il imprime, c'est-à-dire Robles, les privilèges qu'il obtient, mais disons une sorte de critique contre une mercantilisation ou un profit immédiat de l'écriture, plaidée avec arrogance par ceux qui, en fait, font des livres dont ils ne sont pas véritablement les auteurs. Il y a peut-être ça, il y a peut-être d'autres commentateurs qui insistaient sur l'idée que, dans un sens, c'est presque aussi une ironie par rapport à lui-même, puisque le Persiles ou Sigismunda est aussi construit comme une série de collages de différentes histoires. Et dans un certain sens, ce serait une immense flore de choses variées. Je termine avec la troisième et la plus émouvante des mobilités dans le Persilès, c'est la mobilité de l'auteur lui-même, au sens que le prologue de ce livre a une forme tout à fait inhabituelle. Il met en scène une rencontre sur la route, sur l'un de ces chemins poudreux de la Castille dont parlait Borges. Et cette mise en scène peut renvoyer soit à un fait qui advint, soit à une pure fiction, voire à une allégorie. Le prologue commence comme cela, sans adresse d'ailleurs au lecteur, ce qui était normalement le genre des prologues. Vous vous rappelez, le prologue du Quichotte commence par une adresse au desocupado lecteur. Et là, c'est brutal, un peu comme le début d'ailleurs du roman lui-même qui, à la manière hellénistique, commence in media res. Dans un des naufrages, il n'y a pas d'explication préalable, il n'y a pas de précision du lieu, on commence avec l'histoire. Et là aussi, le prologue commence avec « Or donc, il arriva que je m'en revenais avec deux amis du fameux bourg d'Esquivias, fameux pour mille raisons, d'abord pour ses illustres lignages, puis pour ses illustrissimes cépages, lorsque j'entendis venir derrière moi, à grand renfort d'éperon, quelqu'un qui paraissait désireux de nous rejoindre et montra qu'il l'était, en nous criant de ne point enjouer de l'éperon. Nous l'attendîmes, vint alors sur une ânesse un étudiant grison, car il était tout habillé de gris. » Donc, Cervantes chemine, et il revient du bourg où est né, qui est le lieu de naissance de son épouse, Esquivias, il va vers Madrid, et il est rattrapé par cet étudiant qui est monté sur une ânesse, les Valdés désignés comme Borrica ou Burra dans le texte. Et la rencontre s'opère avec ces étudiants qui a rattrapé Cervantes et ses deux amis qui sont montés qui sont à cheval. Et le récit continue. À peine l'étudiant eut-il entendu le nom de Cervantes que descendant de sa monture, tandis que sa bourse de voyage tombait de ci et son porte-manteau, cette valise, de là, car il voyageait avec tout cet appareil, il se précipita vers moi et s'emparant de ma main gauche, « Oui, oui, dit-il, c'est lui, le manchot à qui ne rien ne manque, le fameux tout, le joyeux écrivain, en un mot, le bonheur des muses. » Et là, le texte joue sur manco, sano, qui est un paradoxe, puisque manco peut être à la fois un manchot. Cervantes a perdu sa main gauche à l'épante, et en même temps l'indication d'un manque, et sano, l'indication d'une intégrité et d'une condition parfaite. Donc le jeu manco sano joue sur tout ce registre, en plus de l'euphonie entre les O et les A. Moi, me voyant, dit Cervantes, en si peu de temps couvert d'un tel excès d'éloges, j'ai cru qu'il y aurait de la discourtoisie à n'y répondre point. C'est pourquoi, en lui donnant une accolade, je lui dis, c'est là une erreur, comme on en a commis beaucoup d'admirateurs mal avertis. Monsieur, je suis en effet Cervantes, mais non pas le bonheur des muses, ni aucune autre de ces fariboles que vous m'avez débitées là. De grâce, reprenez votre ânesse et montez en selle, et faisons en devisant aimablement le peu de chemin qui nous reste, puisque l'étudiant va à Ségovie et que Cervantes va à Madrid, donc leurs chemins vont se séparer. Et évidemment, on ne peut pas ne pas penser qu'entre cet étudiant qui est monté sur un âne et Cervantes qui est monté sur un cheval qui est appelé Rocín, qui était le nom normal pour un cheval d'une qualité assez médiocre, mais qui est aussi, évidemment, Rocinante. Ce cheminement sur un chemin de Castille d'un homme sur un âne et d'un autre sur un cheval est comme un double décalé, bien entendu, de ce qui a été toute la trame du Don Quichotte. Sancho sur son âne et Don Quichotte sur son cheval, Rocinante. Et la fin, au moment où ils se séparent, où ils vont sur le bord se séparer, le texte continue. Cervantes déclare à l'étudiant : ma vie touche à son terme, et au train où vont les éphémérides de mon pouls, qui au plus tard achèveront leur course ce dimanche, j'achèverai moi celle de ma vie. C'est en un dur moment que vous avez fait ma connaissance, puisqu'il ne me reste plus le temps de vous montrer combien je vous sais gré de l'amitié que vous m'avez montrée. Là-dessus, nous arrivâmes au pont de Tolède, que je pris, tandis que lui s'écarta pour prendre celui de Ségovie. Ce qu'on dira de mon aventure, la renommée en aura soin, mes amis ont envie de le dire, et moi, plus encore de l'entendre. Nouvelles accolades de ma part, nouvelles offres de service de la sienne, et il éprona sa monture et me laissa aussi mal en point qu'il était mal en selle sur son ânesse, laquelle avait donné forte tentation à ma plume d'écrire des plaisanteries. Mais les jours se suivent et ne se ressemblent pas. Le jour viendra peut-être où, renouant ce fil brisé, je dirai ce qui ne me vient pas ici et que je sais qu'il eût fallu dire. Adieu, grâce de l'esprit. Adieu, plaisanterie. Adieu, mes gais amis. Sur le point de mourir, j'emporte le souhait de vous revoir bientôt, content, dans l'autre vie, dans le dernier voyage. Merci.